Bonsoir à tous et bienvenue au bistrot des ethnologues pour une séance dédiée à l'ouvrage collectif VIH-SIDA, l'éthique aux frontières de l'engagement ethnographique, publié en 2025 aux éditions ANRS, collection Sciences sociales et SIDA. Alors, avant de présenter nos invités, je vais dire un petit mot sur le bistrot des ethnologues, son fonctionnement. La séance comprend des personnes qui sont en ligne. Elles nous entendent bien, normalement, puisqu'on a fait un essai. Elles auront l'occasion de poser des questions à la fin de l'échange. Alors, sachez que la séance, on vient de l'évoquer, est enregistrée et vous pouvez retrouver en ligne sur le site du Bistrot des ethnologues l'ensemble des séances. Alors, ça remonte, hein, des séances jusqu'à bien 20 ans. Vous pouvez trouver des grands auteurs qui sont passés par le Bistrot des ethnologues. Alors, l'objectif du Bistrot des ethnologues, l'enjeu, hein, évidemment, il est assez simple, hein, c'est de rendre accessible au grand public, hein, les travaux de recherche de type ethnographique. Et chaque année, les bénévoles, et je les remercie, les bénévoles de l'association de Bistrot Ethnologues, hein, travaillent, vous voyez, je suis pas très, voilà, là c'est mieux, travaillent pour vous proposer une programmation la plus sexy possible. Donc je les remercie, toujours en lien avec les enjeux de l'actualité. Et ce que je voulais rajouter également, c'est que le bistrot ne pourrait pas exister sans les partenaires. Et les partenaires, c'est très important. Il faut les remercier également. Partenaires institutionnels, l'ADRAC Occitanie, le Fonds du développement de la vie associative, pardon, et culturelle, la ville de Montpellier, les laboratoires de recherche. Laboratoire Santé-SI, laboratoire de sciences sociales de l'Université de Montpellier, qui est partenaire de la séance de ce soir. Le laboratoire d'anthropologie, alors je n'ai pas le nom, de l'Université Paul Valéry. Sens. L'association Contact, l'association des jeunes chercheurs de Montpellier, qui soutient cette séance. Et il faut remercier également l'accueil chaleureux de la brasserie du Dôme, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans un bistrot des ethnologues. Vous pouvez boire, prendre un verre à tout moment, donc ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais présenter nos invités. Alors, évidemment, je pense que les informations que j'ai sont erronées. Je vous laisserai compléter la présentation. Alors, Cyriac Boulet. Alors, je prends dans l'ordre, hein, des personnes qui ont coordonné l'ouvrage. Alors, Cyriac Boucher-Meyer, qui est à ma gauche, qui est postdoctorant au laboratoire Santé-SI de l'Université de Montpellier et membre de l'Institut Convergence Migration. Là, je ne me trompe pas normalement. Mathilde Labruni, qui n'est pas là ce soir, rattachée au laboratoire Passage, Université de Bordeaux. Est-ce qu'il n'y a pas de changement? Cécile Lauriato, postdoctorante à Aix-Marseille, Université. Et là, ça... Non, c'est très bien, ok. Léo Manac, docteur en anthropologie au CEPED, Université de Paris, et également membre de l'Institut Convergence Migration.
Merci, OSSTIM, postdoctorant.
Ok, voilà, comme ça on teste au passage le micro. Alors, quelques éléments de cadrage et ensuite je lancerai quelques questions pour permettre à nos invités, voilà, de répondre à la fois en tant que coordinateur de l'ouvrage, mais aussi comme participants, puisqu'ils ont écrit des chapitres qui relèvent de leur propre terrain de thèse. Alors, quelques éléments, alors, rapidement, entre la quatrième de couverture, la préface et l'introduction, on comprend que l'ouvrage est le fruit d'une journée d'études sur l'éthique de la recherche en sciences sociales sur le VIH-SIDA, qui s'est tenue en octobre 2021 au campus Condorcet. Il s'inscrit dans la continuité intellectuelle de l'ouvrage de Fanny Cabrol et Gabriel Girard, publié en 2010. Il est intitulé « VIH-SIDA, se confronter au terrain ». L'enjeu de la journée d'études, comme de l'ouvrage, vise à actualiser la réflexion qui était menée dans cet ouvrage, qui date d'une quinzaine d'années. Alors, quelques éléments sur l'ouvrage, et on approfondira avec nos invités. Alors, comme j'ai perdu un papier, je rentre sur l'ordinateur. L'ouvrage discute des enjeux méthodologiques et épistémologiques, donc des défis hein, auxquels vous avez été confrontés sur le terrain du VIH-SIDA autour des mutations du champ de la recherche, avec des questions autour de la précarité académique, la diversification des financements, l'hybridation des disciplines. Des défis autour des tensions entre deux conceptions de l'éthique procédurale héritée des sciences de la vie et l'éthique en pratique ou en action. Donc, je pense qu'on traitera aussi de ça. Les défis aussi au niveau des contestations politiques et scientifiques, puisqu'il y a un climat de défiance envers les sciences sociales que vous mettez en avant. Un défi aussi au niveau des enjeux de la recherche engagée. Vous êtes attentif aux rapports de domination. Des défis aussi sur les impacts des évolutions biomédicales et sur le terrain du VIH-SIDA, c'est des choses qui sont importantes à cibler. Et également, vous évoquez la perte d'autonomie des chercheurs, notamment dans la managérialisation de l'enseignement supérieur. Alors, et là je reprends l'autre papier. In fine, finalement, le fil rouge de l'ouvrage, c'est autour de l'engagement du chercheur. Vous interrogez comme ça la porosité des frontières entre les rôles de scientifiques, en l'occurrence là de l'ethnographe, militants et personnes concernées. En effet, l'ouvrage met en avant le double mouvement où les militants deviennent chercheurs pour objectiver leur combat et des chercheurs deviennent militants. Avec la réflexion sur la recherche communautaire, où le chercheur peut lui-même appartenir aux communautés étudiées. Bon, voilà, j'ai brossé comme ça voilà, les grandes thématiques, et je pense qu'on va ensemble voir de plus près tout ça. Alors, quelques questions, une salve de questions, puisqu'ils sont trois, et je vous laisserai, selon vos envies, y répondre. Pour démarrer, plutôt autour du contexte de la proposition de l'ouvrage, si j'ai bien compris, hein, l'ouvrage est issu d'une communauté de jeunes chercheurs. Alors, je lis l'acronyme, hein, RJCSSVIH. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette communauté, son histoire, sa composition, ses raisons d'être et son fonctionnement actuel? Est-ce un moyen de résister aux mutations de la recherche? D'ailleurs, revenir sur ces mutations, ça serait, je pense, intéressant, que vous évoquez hein, dans l'ouvrage. Quels sont les liens avec les anciens, je dirais, alors je mets entre guillemets, Fanny Cabrol, Gabriel Girard, qui ont rédigé l'ouvrage qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment se met en place, on va dire, comment s'articule ces liens avec ces anciens pour créer cette espèce de lignée intellectuelle là. Et peut-être revenir sur les changements et les continuités sur plus d'une décennie, depuis qu'ils ont écrit cet ouvrage-là. Bon, ça fait plusieurs questions comme ça, je peux les répéter si vous.
Donc du coup, merci beaucoup déjà pour l'invitation. On est ravis d'être ici. Donc pour répondre à la première question de contextualisation. Le RJC-SSVIH, c'est le réseau des jeunes chercheurs en sciences sociales sur le VIH-SIDA. Donc, c'est un réseau qui a été créé en 2008 suite à des journées doctorales. Il est composé de jeunes docteurs, de jeunes chercheurs, en fait, que ce soit des masterants, masterantes, doctorants, doctorantes, post-doctorantes ou post-doctorantes. Qui sont issus de disciplines diverses, sociologie, anthropologie, sciences politiques, épidémiologie aussi. L'idée, c'était de faire du lien entre les jeunes chercheurs qui travaillent sur les mêmes objets et de créer un espace d'échange et de réflexion pluridisciplinaire sur le VIH-SIDA et les hépatites. Et il y avait aussi l'idée très central de rompre avec l'isolement scientifique des jeunes chercheurs. Ce réseau-là, il est intégré à un réseau plus large qui s'appelle le réseau des jeunes chercheurs santé et société, qui prend toujours plein de candidatures, qui est un réseau qui s'étend à l'international. Ce réseau-là comprend des réseaux thématiques, donc il y a le réseau VIH, dont on fait partie. Il y a un réseau sur le vieillissement, un autre sur la santé numérique et un sur l'hygiène et l'alimentation. C'est un réseau qui est financé par l'ANRS, donc l'Agence nationale de recherche sur le SIDA. Et il fonctionne avec un comité de coordination qui est chargé de l'animer. Donc, des exemples d'animation, ben, par exemple, la semaine prochaine, il y a une journée montage de projet qui est organisée. Donc, l'idée, c'est de donner des outils aux jeunes chercheurs pour naviguer plus facilement dans le monde de la recherche et de l'enseignement. Il y a l'organisation de journées d'études et de séminaires, et, dont celle dont, qu'on a organisée sur l'éthique de la recherche. Et puis, éventuellement, l'appui à la coordination d'ouvrages collectifs comme celui qu'on présente aujourd'hui. Sur la question de est-ce que ce réseau-là permet de résister aux mutations de la recherche que tu as évoquées. Donc, du coup, le réseau, il permet de créer des réseaux de solidarité entre des chercheuses qui partagent les mêmes problématiques de recherche. Et selon nous, bah, il va consolider une communauté scientifique autour des enjeux propres au VIH-SIDA, en puisant dans l'histoire de l'épidémie, parce que, en effet, le champ du VIH-SIDA, il est souvent présenté comme un espace exemplaire où la recherche, l'intervention, le militantisme et la participation des personnes concernées sont mêlées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fondateur aussi dans la recherche sur le VIH-SIDA. Et tout ça, ça a contribué à politiser la recherche et à en faire le lieu d'une pratique et d'une réflexion collective concernant l'éthique et l'éthique de la recherche plus particulièrement. Donc ça se traduit notamment par une critique des cadrages éthiques de la recherche biomédicale qui n'est pas adaptée aux sciences sociales, on va en reparler, et donc un contournement de l'éthique formelle, de l'éthique réglementaire. Et l'idée, c'est de s'approprier ou de composer avec ces règles pour faire de la recherche dans le respect des objets et des personnes enquêtées qui peuvent être, dans le cas du dans le champ du VIH-SIDA, qui peuvent être des personnes très vulnérables. Le réseau, il permet aussi de lutter, de résister à l'isolement scientifique en partageant des ressources, en partageant des outils. Des manières de faire. Il permet de lutter aussi à son échelle contre la précarisation de la recherche, parce qu'on fait des liens entre nous, on s'échange des bonnes pratiques sur les questions de financement, tout ça, et puis on peut. Enfin, ça fait toujours du bien d'être à plusieurs. Et il permet aussi de mettre au jour les rapports de domination qui structurent le milieu de la recherche et d'affirmer d'autres manières de faire. Par exemple, on va en parler aussi en résistant à la standardisation des formes d'écriture scientifique. Donc en somme, ce réseau-là, il peut permettre à des chercheuses issues d'un champ de recherche et d'épistémologies minoritaires de garder un peu la tête hors de l'eau. Tu demandais aussi quel était le lien avec les anciens.
Les anciens, ils aimeraient.
Pour nous, ça faisait beaucoup de sens que Fanny Chabrol et Gabriel Girard contribuent à notre ouvrage, parce que c'est des personnes qui faisaient partie de la première génération du réseau de jeunes chercheurs sur le VIH. Et c'est des personnes qui ont accueilli et accompagné les jeunes chercheurs qui ont suivi, tout en transmettant cette volonté et la nécessité de faire du lien entre jeunes chercheuses et entre différentes générations et entre différentes disciplines. Et notamment, c'est des personnes qui poursuivent aussi aujourd'hui ce travail en étant vraiment attentives aux critiques et critiques des conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les travaux des jeunes chercheuses. Et donc, en 2010, elles ont coordonné l'ouvrage VIH-SIDA se confronter au terrain, qui a été un précieux outil pour beaucoup de jeunes chercheuses sur le VIH. Et dans cet ouvrage, elle mettait en particulier en avant la nécessité de créer, du coup là je les cite, des cadres communs et formalisés d'échanges d'expériences de terrain, Et elles se sont questionnées sur le positionnement et l'implication des chercheuses tout au long de l'enquête, et notamment dans la prise en compte des enquêtées comme des actrices politiques et des actrices de la recherche à part entière. Se sont également positionnées sur les craintes et les difficultés liées au fait de se situer et de donner à voir son positionnement au sein de la sphère académique et au-delà. Et en particulier dans le champ de la recherche sur le VIH SIDA, du coup. Et donc, 15 ans plus tard, il y a une nouvelle génération de jeunes chercheuses qui prend le relais, qui a pris le relais petit à petit, mais du coup, là, avec cet ouvrage, on réactualise un peu ce qui se disait déjà dans cet ouvrage-là. Et du coup, là, il y a une volonté de composer, d'où le titre de l'ouvrage, aux frontières d'engagement multiples. Est-ce que c'est toujours le titre de l'ouvrage ? Oui. Du coup, avec des jeunes chercheuses qui se situent au croisement d'identités plurielles, déjà. Donc, qu'elles soient concernées directement ou non par le VIH-SIDA et les politiques de prévention. Ça peut être des chercheuses, des militantes ou des salariés d'organisations de lutte contre le SIDA. Donc là, ça permet, en gros, du coup, quand on pense les frontières de l'engagement, on vient, à partir de ce moment-là, de cette manière-là, on vient complexifier les binarismes entre neutralité et positionnement situé. Il y a aussi un croisement, un positionnement au croisement de diverses disciplines et traditions épistémologiques et méthodologiques, d'où l'importance, comme on fait dans l'ouvrage, de réaffirmer l'intérêt et la valeur des approches situées et inductives, qui sont vraiment en position minoritaire dans le champ de la recherche de manière générale. Et les contributions à l'ouvrage, elles vont donner une place centrale à la réflexivité, et elles proposent de valoriser, comme tu l'as dit, l'éthique en pratique, l'éthique en action. Voilà, pour répondre aux premières questions que tu as posées.
Alors, on enchaîne sur peut-être notre aspect qui était, je trouvais, assez central, évidemment, dans l'ouvrage, l'éthique et les effets sur le travail d'enquête. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la recherche engagée, ce qu'elle signifie pour vous, et quelle place prennent finalement les méthodes qualitatives et ethnographiques dans le champ du VIH-SIDA, qui est, vous le mettez en avant, dominé par l'approche biomédicale. Quels effets ça produit, ça, et quels sont les rapports avec les autres chercheurs, du coup, qui ne sont pas forcément de votre discipline? Ah, c'est toi qui réponds, ok.
C'est un peu réparti les réponses. Merci Eric. Donc pour la première question sur la recherche engagée, donc ce qu'on entend par là, ça c'est en continuité en fait du titre du précédent ouvrage de 2010 qui s'intéressait à la confrontation au terrain, se confronter au terrain. C'était la manière dont en fait par l'engagement ethnographique, on va être amené à modifier les méthodologies, à modifier le rapport qu'on entretient aux objets, qu'on entretient aux populations étudiées, etc. Et donc, il y a une notion d'engagement sur le terrain par l'ethnographie, d'engagement sur le long terme, d'engagement qui parfois est dans le cadre de la recherche à proprement parler, mais peut aussi renvoyer à des engagements antérieurs de personnes qui ont circulé sur les terrains étudiés avant de débuter la recherche, Cécile l'a dit, en tant que personne concernée, donc une forme de continuité avant, pendant, après la recherche, en tant qu'acteur de prévention du VIH, par exemple, ou tout autre exemple de ce type-là, où finalement les différentes casquettes entre qu'une même personne ou que le chercheur, la chercheuse peut avoir en même temps participe d'un engagement multiple. Donc il y a cette notion, voilà, de s'engager, d'arriver par l'engagement aussi à transformer les représentations qu'on pouvait avoir ou les constructions qu'on avait avant de débuter la recherche. Il y a aussi la notion d'éprouver en fait par l'ethnographie et par les liens créés au terrain, aux acteurs sur le terrain, aux personnes enquêtées, la notion de vivre en fait des moments de vie avec les personnes en tant que personnes concernées ou plus extérieures au premier abord, mais finalement de partager certaines injustices, certains combats politiques, certaines épreuves de vie. Et donc de s'engager de cette manière-là. Et à ce titre, il y a plusieurs contributions là de l'ouvrage, notamment celle de Clark Pignedoli ou de Léo, ici présent, qui justement évoque la manière dont, au fil de l'enquête, leur subjectivité, etc., sont travaillées, reviennent sur les émotions ressenties de proximité, de distance par rapport aux objets, par rapport aux personnes enquêtées, qui, peut-être d'un premier abord, peuvent sembler proches de base, une forme de proximité de fait, qui finalement est mise à l'épreuve du terrain, de la rencontre, et peut aussi faire émerger certaines distances, ou au contraire, des proximités qui sont renforcées à travers l'enquête. Et donc, tous ces questionnements-là, les émotions qui émergent, etc., sont autant de données, si on peut dire ça comme ça, ou d'éléments qui peuvent informer sur ce qui se joue sur le terrain, sur les émotions aussi que les personnes enquêtées peuvent ressentir à l'épreuve de logiques politiques qui peuvent être parfois écrasantes à l'égard des populations enquêtées et donc des formes d'émotions partagées qui peuvent être réinvesties et retravaillées soit en prolongeant l'enquête dans ce sens-là, soit en analysant ses propres émotions comme des données d'une certaine manière. Une autre manière de procéder est aussi de Charlotte Flersheim, sa contribution appréhende la manière dont les trajectoires antérieures dans le militantisme, donc Charlotte Flersheim a été engagée comme animatrice de prévention pendant des années, en fait, avant d'engager une thèse un peu plus tard, après des années de militantisme, et donc analyser la manière dont ça favorise l'accès à certains discours, l'accès à la négociation de certains entretiens, l'accès à la négociation d'une présence dans certains espaces, etc. Mais en même temps, ce passé, cette trajectoire antérieure peut apporter des cadres de représentation qu'il va falloir en partie déconstruire, et donc sa contribution contribue justement à essayer de décortiquer la manière dont elle a procédé pour en fait déconstruire tout ça, et aussi amener un questionnement sur des personnes auprès de qui elle sera plus à l'aise d'enquêter, d'autres un peu moins, et en fait dans des collectifs de recherche qui impliquent plusieurs personnes, de se répartir un peu stratégiquement les différents entretiens, les différents espaces à investiguer. Et donc il y a un travail qui est très intéressant sur ce plan-là, qui consiste à objectiver ces déplacements, ces cheminements, etc., à l'aide de ses collègues de recherche, puisqu'il s'agissait d'une enquête menée à quatre personnes, dont Léo faisait partie justement. Sa contribution ne porte pas forcément directement là-dessus, mais a contribué à ce dispositif-là, qui était une forme de régulation en fait, qui consistait un peu à objectiver comment procéder, enfin les déplacements effectués au fil de l'enquête. Par les questions d'engagement, ben, il y a aussi d'autres questions plutôt politiques, c'est-à-dire que justement ces circulations-là, Eric le disait en introduction, de militants à chercheurs, de chercheurs à militants, et en fait l'engagement ethnographique amène aussi à se positionner dans ces espaces-là et à négocier sa place, alors la négocier avec les personnes et la négocier vis-à-vis de soi aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on analyse, comment on le retravaille. Et finalement, tout ça, ça relève et ça, c'est un fil un peu, c'est un fil rouge de cet ouvrage. Ça relève d'une opposition qui avait également été évoquée par Eric en introduction entre éthique en pratique et éthique procédurale. C'est-à-dire que tous ces déplacements rendent compliquée une approche qu'on qualifie d'éthique procédurale, qui consiste à dire il faut passer devant un comité d'éthique, donc il faut dire quelle est notre problématique, comment on compte y répondre, quelle méthode d'enquête on va interroger, quelle méthode d'enquête on va mettre en place, etc. A priori, ce sont les cadres éthiques un peu standardisés qui s'imposent peu à peu, de plus en plus, notamment sur les terrains liés à la santé, qui s'imposent aux sciences sociales, mais qui de base n'émergent pas des sciences sociales. Et donc ça, c'est assez compliqué de concilier cette approche ethnographique plutôt inductive qui consiste à travailler ces déplacements et à les prendre comme des indicateurs en fait et des données qui informent sur le terrain et sur l'objet étudié. C'est assez contradictoire avec le fait de dire qu'est-ce qu'on va essayer de vérifier un peu comme hypothèse, etc. Donc en fait, ça, c'est un fil rouge qui traverse vraiment l'ouvrage. Et justement, dans ces questions d'éthique, ça ne veut pas dire. Dans l'éthique procédurale, il y a ce qui est éthique et ce qui n'est pas éthique. Or, dans la définition de l'éthique, l'éthique est un processus et n'est pas quelque chose de binaire avec des choses éthiques et non éthiques. C'est une discipline qui consiste à. Ça qualifie une réflexion. Ça pourrait laisser penser que finalement ces approches ethnographiques inductives qui ne rentrent pas vraiment dans ces cadres d'éthique procédurale pourraient être non éthiques d'une certaine manière si on dit ça c'est éthique, ça c'est pas éthique. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est moins éthique, y compris quand on prend les codes d'éthique procédurale. Si on prend l'exemple de la contribution de Cécile, qui a travaillé justement sur des groupes. Alors la PrEP, je ne sais pas si vous maîtrisez, c'est un traitement en fait préventif à destination des personnes séronégatives pour éviter de contracter le virus du VIH. Donc on prend en prévention. Cécile, sa thèse portait sur des groupes Facebook, l'un en France, l'autre au Canada ou au Québec. Je ne sais plus si c'est Canada ou Québec. Canada. Et donc c'était une observation, une ethnographie en fait de ces groupes Facebook qui sont des groupes d'échange entre personnes qui prennent la PrEP et qui échangent en fait sur j'ai fait ça. C'était en fait la PrEP est un traitement qui est arrivé assez récemment en France du moins en 2016 ou 17, et donc ces groupes là étaient là pour les tout débuts en fait et pour les personnes qui prenaient la PrEP, qui parlaient d'éventuels petits effets qu'il pouvait avoir secondaires ou de la manière dont il l'apprenait. Il y avait différentes modalités de prise, etc. Et donc, Cécile, du moment que c'était sur des groupes Facebook, c'est des groupes publics, et donc avait l'autorisation, d'un point de vue de l'éthique réglementaire, avait l'autorisation en fait, de faire ce qu'elle veut de ces données-là. En revanche, elle s'est posée plein d'autres questions éthiques qui étaient de dire... Bon, en fait, est-ce que je peux me permettre d'observer ces conversations-là sans m'annoncer aux personnes ? Non. Moi, de son point de vue à elle, de sa réflexion à elle, de sa démarche, il fallait qu'elle s'annonce. En s'annonçant, elle a eu des retours de personnes qui ont émis des doutes, un peu des questions en fait sur comment elle menait sa recherche, comment elle traitait ses données, etc. Et ça lui a permis derrière de rassurer les personnes et tout ça, avec la deuxième préoccupation une fois qu'elle s'était annoncée, de s'assurer que sa présence d'observatrice ne limite pas la participation des personnes dans ces groupes Facebook. Et donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément prévues par les cadres éthiques procéduraux, mais qu'elle a mis en place, et donc elle est allée au-delà, d'une certaine manière, de ces cadres éthiques. Voilà, et sur la deuxième question, qui relevait plutôt de la place accordée aux méthodes qualitatives et ethnographiques dans le champ du VIH-SIDA, qui est plutôt dominée par les approches biomédicales, ça nous semble assez important, d'autant plus, et ça c'est une des distinctions un petit peu qui s'accentue, enfin qui existe entre les deux ouvrages, celui de 2010 et celui-ci, puisque ces 15 dernières années ont été marquées dans le champ du VIH-SIDA par des découvertes ou des évolutions, en tout cas biomédicales, dans les traitements, c'est-à-dire que les traitements, le fait que les traitements, en fait, les trithérapies apparaissent en 96, des traitements efficaces pour lutter contre le VIH-SIDA. Et en 2008, on se rend compte, enfin, c'est acté, même s'il y avait des pratiques qui laissaient supposer qu'on, enfin, on savait à peu près, mais voilà, c'est acté en 2008 que les personnes séropositives qui sont sous traitement ne peuvent plus transmettre le virus. Ça, c'est un premier cap en 2008. Le deuxième cap, c'est en 2016-2017, avec l'arrivée de la PrEP en France. Ces évolutions biomédicales, ces découvertes de traitement, vont transformer les politiques de prévention du VIH. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était une prévention un peu généralisée, le port du préservatif, point. À partir de 2008, les politiques de santé publique vont se transformer, puisqu'il va y avoir une croyance, ou en tout cas un espoir, d'une maîtrise possible de l'épidémie. Puisque il y a des modélisations statistiques et mathématiques qui sont réalisées et qui disent que si 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut, que 90% des personnes qui connaissent leur statut sont sous traitement et que 90% des personnes qui sont sous traitement ont une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus transmettre le virus, si on atteint ces seuils-là, on parle des 3,90 et après les 3,95, donc 95%, 95%, 95%, ça veut dire que l'épidémie peut être maîtrisée. Et donc, avec cet espoir-là, il va y avoir un intérêt à mobiliser les sciences sociales autour de l'atteinte de ces objectifs-là. Des sciences sociales qui, jusqu'ici, étaient plutôt... porté plutôt sur, en fait, la vie avec le virus, le rapport à la mort, le rapport au traitement, aux effets secondaires, la vie des populations les plus exposées au virus, etc. Et là, maintenant, donc un peu en autonomie, d'une certaine manière, en parallèle par rapport à des recherches qui étaient plus sur, en fait, vaincre l'épidémie. Et là, il y a une forme de rapprochement avec une attente forte des sciences sociales pour aider à l'atteinte de ces objectifs de santé publique, donc l'atteinte des 90, 90, 90, 95, 95, 95. Et donc, ça va amener une collaboration encore plus forte et attendue, en tout cas, entre les sciences sociales et les acteurs de la santé publique, et qui va, du coup, exposer d'autant plus à des négociations, en fait, entre des champs disciplinaires qui ont des traditions épistémiques, méthodologiques différentes, et donc remettre, en fait, en balance et en discussion ces différentes traditions et la nécessaire négociation, en fait, notamment de ces cadres éthiques qui peuvent être différenciés entre les différentes disciplines. Je crois que c'est bon. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Non, tu étais très, très clair.
Okay, merci, Cyriac. Alors, on va peut-être aller un peu plus sur le terrain et les manières de s'engager. Le livre aborde des situations de conflit sur le terrain. Pouvez-vous nous confier des exemples de ces conflits et les manières d'en faire de la connaissance ? Vous évoquez aussi la question de la santé mentale des chercheurs minoritaires sur des terrains sensibles. Pourriez-vous développer ce point-là et en quoi il s'agit finalement de terrains sensibles ? Vous parlez également de l'auto-ethnographie communautaire que vous qualifiez d'originale. Pouvez-vous nous en parler dans le contexte du VIH-SIDA ?
Troisième. C'est moi le troisième, ok. Du coup, je vais parler d'abord des conflits, parce que jusqu'à présent, on a l'impression que voilà, on fait de la recherche communautaire entre communautés et que c'est super d'être engagé et que tout va bien et qu'on est tous ensemble à vouloir lutter contre le sida. Évidemment, les choses sont bien moins simples et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Mais nous, on est vraiment parti de ces réflexions de tous les inconforts et de tous les malaises qu'on peut avoir sur les terrains. Et ça, il y a toute une tradition dans l'anthropologie. Et voilà, on est dans un bistrot des ethnologues, donc on peut parler de ces traditions-là sur la manière dont l'angoisse sur le terrain, pour citer Devreux, sur de l'angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, ou les malaises sur les terrains, pour citer d'autres collègues, en fait, sont des endroits qui sont très heuristiques pour toutes les situations de conflit, de frottement, de gêne qu'on peut ressentir et qui, là, sont bien plus larges que les terrains du VIH-SIDA, qui sont même inhérentes, je crois, personnellement, à la pratique de l'ethnographie, d'arriver dans un espace, qu'on connaisse les gens ou parfois qu'on ne les connaisse pas du tout, d'arriver et de leur dire, voilà, vous allez nous raconter ce que vous avez de plus intime. C'est très gênant et on le sait, et on est là aussi pour parler de pourquoi c'est gênant. Et en fait, ça vient révéler en fait des formes d'inévidence par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir cette forme de parfois d'idéalisation un peu romantique, de se dire, voilà, on est tous ensemble à lutter contre le sida, donc nous, en tant que chercheurs, vous devez nous accueillir un peu bras ouverts, parce qu'on est là ensemble, on vient documenter vos luttes, on vient rendre visibles vos combats et tous les papiers qu'on va écrire qui vont être lus par 3 personnes, ça va vraiment visibiliser vos revendications. Non. Et les gens en ont profondément conscience. Et par rapport au fait de donner des exemples, parce que c'est au-dessus de ça dont on part, c'est d'avoir des exemples un petit peu concrets de conflits. Je voudrais citer du coup le travail de Isaura Rivières, qui a fait une contribution dans l'ouvrage, qui elle en fait a été en thèse en CIFRE. Je pense que ça parle à tout le monde, le fait de faire une thèse en CIFRE. Bon, elle faisait une thèse en CIFRE dans une association de lutte contre le sida, où elle-même travaillait sur le salariat associatif. Donc elle-même était salariée de la structure, tout en travaillant sur les tensions de... le titre de sa thèse, c'était « Être dominé sous la cause », je crois. Enfin, donc c'est vraiment le fait d'être... De comment une cause, un engagement peut travailler aussi des rapports à l'engagement, au temps de travail, au burn-out, à l'épuisement, tout en étant elle-même salariée. Donc là, il y avait vraiment cette tension de je suis salariée communautaire d'une association qui se définit comme communautaire, je suis une personne racisée, lesbienne, je corresponds à toutes les cases des communautés du sida, et à la fois, en fait, je vois des situations de travail, de burn-out, d'épuisement, de contraintes, de managérialisation, qui ne sont pas que de la recherche, qui ne sont pas que en recherche, mais qui sont aussi dans les espaces associatifs, avec la nécessité de rendre des comptes pour obtenir des financements. Et du coup, qu'est-ce que ça produit en termes de souffrance au travail? Et du coup, elle a analysé ces tensions-là. Et ça amène en fait à cette question de toujours d'une forme de nécessité à être vigilant sur qu'est-ce qu'on projette de nous, notre rôle, de comment on est attendu, de formes de romantisme en fait dans lesquelles on peut tous et toutes être pris. Moi-même, j'ai travaillé sur le droit au séjour pour soins, donc plutôt sur la question des étrangers malades. J'y suis arrivée, moi j'ai des papiers, je suis français. Oui, je suis trans, donc je participe de la communauté LGBTQIA+, et VIH, mais en fait, moi, il y a genre une militante qui m'a dit, bon, bah, du coup, tu me payes combien, en fait, pour mon entretien, en fait. Enfin, moi, là, je sais que je peux faire rémunérer des entretiens. Moi, là, mon association, elle est en galère. Je sais que vous, vous êtes dans la recherche, vous avez des sous. Donc, combien vous me donnez? Et en fait, ça, c'est des situations comme ça de reposer le fait qu'il y a des rapports de pouvoir au sein des espaces communautaires, et que les communautés, ça peut être pensé comme des fictions et ça peut venir écraser, en fait. Dès lors qu'on pense le tout communautaire, on peut venir effacer en fait des rapports de domination, de pouvoir dans lesquels les chercheurs peuvent être pris, peuvent être dominés, mais peuvent être aussi extrêmement dominants. Du coup, c'était là-dessus, sur ces questions de situation de conflit. J'en viens à la question de la santé mentale des chercheurs minoritaires, dans la, particulièrement l'anthropologie, enfin moi je suis anthropologue, toi t'es sociologue, d'accord, moi je suis anthropologue, toi non mais ben, je parle en tant qu'anthropologue là, non mais en fait on fait tous de l'ethnographie, mais c'est cette question de comment on nous a transmis en fait des manières d'apprendre l'anthropologie où il y a une forme de, à mon sens là, de position un peu virile du premier terrain
où il faut pouvoir voilà, faire son premier terrain. C'est parfois, je trouve, avec des formes de métaphores qui peuvent ressembler à une forme de dépucelage de t'y vas, on te lâche. Si c'est un pays très lointain, dangereux, avec aussi des représentations très culturalistes, voire racistes, de qu'est-ce qui est dangereux comme terrain, c'est quoi un terrain sensible, et la manière dont on pouvait se sentir coupable dès lors qu'on est chercheur et qu'on peut ressentir des situations de souffrance psychologique, d'angoisse, mais qui là déborde de truc d'angoisse que j'ai abordé précédemment, où là ça peut devenir douloureux, voire dangereux. Et il y a des formes de culpabilisation, de dire « Ah ben, tu ne serais pas assez fort pour faire des terrains aussi difficiles. » Et en fait, le premier terrain, bah, il faut t'y coller. Et si tu n'es pas assez fort, bah, change de métier. Et ça, moi, c'est des récits, c'est des discours qu'on m'a tenus pendant que je faisais mes études d'anthropologie et que je trouve problématique. Là, c'est le moment take politique hot take de l'anthropologie. Et par rapport à cette question des terrains sensibles, au départ, les terrains sensibles, ça s'est beaucoup constitué autour de terrains qui pouvaient être des terrains dans des zones de conflits armés ou dans des zones où il pouvait y avoir des situations de violence. Et progressivement, avec une définition de la violence qui s'est étendue sur c'est quoi une violence, c'est pas que de la violence en conflit armé, c'est aussi des violences dans l'intime, c'est aussi toutes les questions d'articulation entre le genre, la race, les endroits où on peut subir en fait une extension de la définition de la violence en anthropologie, in fine, la question du terrain sensible, elle s'est aussi étendue. Et en fait, le fait d'être concerné par des situations où là, en fait, on en a finalement peu parlé en introduction, mais en fait, le sida, au débat, c'est 36 millions de morts, c'est des expériences de douleur, de maladie, de stigmatisation, d'humiliation, de non-droit. En fait, c'est des questions qui sont très douloureuses. Et quand on est des chercheurs concernés par soit des expériences biographiques, soit un positionnement social qui fait qu'on peut être concerné par ces questions-là, et ben, ça peut être carrément douloureux. Et en fait, c'est de dire, c'est pas une question, on n'a pas à se sentir coupable de pouvoir ressentir en fait ces difficultés-là sur les terrains. Et nous, on prône, et c'est des questions de politique de la recherche, des formes d'institutionnalisation de la manière de prendre soin en fait des chercheuses minoritaires et des chercheurs qui travaillent sur des terrains dits sensibles, avec une définition beaucoup assez extensive en fait de ce qu'un terrain sensible, et de rappeler qu'en fait, enfin, il y a de la médecine du travail. Moi, quand j'avais un séminaire à l'EHESS où l'anthropologue me disait « Non, mais rappelez-vous en fait que c'est de la médecine du travail. » Et qu'en fait, là, si ça devient trop compliqué pour vous, en fait, il y a aussi, on peut mettre en place des dispositifs de psychologie du travail autour de ce que vous traversez sur vos terrains. Et c'est du coup revendiquer cette dimension institutionnelle, collective, de prendre ça collectivement en charge, de créer des lignes budgétaires sur les programmes de recherche pour mettre en place du suivi psy, pour mettre en place des espaces de discussion qui permettent de débriefer pour justement sortir de ces formes de culpabilisation sur la manière dont on vit les terrains. Et par rapport à ça, sur la question, la façon dont on donne les cours, dont on transmet, dont on transmet l'anthropologie quand on a des pratiques d'enseignement, c'est des choses qui, moi c'était un texte de Marielle Debos qu'on cite dans l'ouvrage, c'est une chercheuse qui a écrit un vademecum sur la question des violences sexuelles sur le terrain et sur la manière dont elle était, quand elle accompagne en fait des jeunes masterants, surtout masteranteux et doctoranteux, sur des terrains, en fait la rencontre ethnographique elle est assez bizarre. En fait, on vient demander à des gens de nous raconter leur vie, ça pose en fait un rapport de pouvoir de jusqu'où nous on va pour que l'autre nous raconte sa vie. Et en fait, quand c'est des jeunes femmes sur des terrains avec des hommes généralement plus âgés qui savent qu'ils ont ce pouvoir-là, en fait, ça peut créer des situations de violence de genre et de violence sexuelle, et où en fait, elle a mis en place un vademecum qui est vraiment très pertinent à transmettre aussi dans les espaces d'enseignement dans lesquels on est, pour dire en fait, c'est quoi les limites que vous acceptez de déborder dans les espaces dans lesquels vous êtes. Et sur cette question, voilà, de la santé mentale des chercheurs minoritaires, mais plus largement, en fait, c'est aussi de penser la minorité comme un endroit qui n'est pas juste la minorité, on est entre nous, c'est la minorité, en fait, on a des trucs à dire à la majorité et on a des choses à apporter sur ces questions-là, précisément, de santé mentale, de vécu des violences structurelles et des manières d'y répondre. Et qu'en fait, au plan épistémologique, ça fait du sens. Enfin, c'est au plan politique, éthique, épistémologique, ça fait du sens de penser une question de santé mentale, pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, politique et institutionnel. J'en ai fini cette question. Et sur la question de l'auto-ethnographie communautaire, pourquoi c'est génial ? Non, du coup, c'est un concept, enfin, c'est un terme qui est mobilisé par un des contributeurs du livre qui s'appelle Clark Pignedoli, qui est un chercheur trans et qui a fait une recherche sur les personnes trans face à la PrEP. Donc on a parlé de la PrEP, enfin Cyriac nous a parlé de la PrEP tout à l'heure, donc vous savez ce que c'est maintenant. Mais où en fait lui il est arrivé sur un terrain avec des personnes qui étaient plutôt des travailleuses du sexe trans, migrantes, plutôt sans papier, donc carrément vulnérabilisées à plein d'endroits. Et des femmes et du coup lui il était trans, il venait faire cette recherche avec des trans, donc c'est super, on est entre trans. Et en fait non, les choses sont beaucoup plus complexes, parce qu'en fait lui c'était une personne qui était de nationalité non pas française mais européenne, enfin italien, qui ne parlait pas espagnol, là c'était plutôt l'espagnol et portugais qui étaient parlés, qui en fait était un mec trans, c'était des meufs trans, elle le mégenrait parce qu'elle le voyait pas comme un mec trans, et où en fait la question de poser la communauté à cet endroit là comme quelque chose qui faisait du sens pour toutes les personnes, bah en fait, non, ça rejouait ce que je disais tout à l'heure sur la question des conflits et des ambivalences et des tensions entre ces espaces de communauté qui sont beaucoup plus ambivalents, complexes et que ça nécessite des formes de désidéalisation. Mais pourquoi cette auto-ethnographie communautaire, malgré tout, elle fait du sens, c'est justement cette question de la réflexivité et la manière dont on revendique la réflexivité en sciences sociales et particulièrement en anthropologie, c'est de dire là en fait ma manière d'avoir accès à cet espace social, d'être affecté par certaines choses, j'ai besoin de me positionner aussi pour faire, enfin nous on s'inscrit du coup dans les épistémologies des savoirs situés, qui est de dire en fait un savoir il est toujours situé, enfin je sais pas là si je suis en train de faire un tunnel de cours d'anthropologie de base là, mais un savoir il est toujours situé, et face à des formes de prétention à la neutralité, à l'objectivation, enfin c'est de revendiquer une objectivité forte et de dire là à partir de comment en fait je suis compris dans l'espace social avec les gens avec lesquels j'interagis, en fait ça va produire ça va produire du savoir, mais ça va aussi produire des ignorances et des points de cécité. Et là on reprend Isabelle Claire qui a fait un très beau papier où elle parle des cécités biographiques, enfin c'est un papier qui s'appelle Nos objets nous-mêmes, qui est sorti je crois en 2023, et qui parle de ces cécités et de dire c'est pas parce qu'en fait je suis traversée par certains rapports de domination que moi-même, enfin là elle parle en tant que femme blanche sur des terrains où elle a pu être avec des personnes racisées, où en fait la manière de se poser à certains moments comme minoritaire ne doit pas nous empêcher de toujours être dans cet aller-retour de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois pas en fait, et dans ce que je vois pas parfois aussi être un peu modeste sur ce qu'on peut apporter. Et enfin parler un petit peu d'extractivisme, parce que sur les questions d'auto-ethnographie communautaire, l'inconfort et dont on parlait tout à l'heure, et cette question de l'angoisse, du malaise, c'est aussi faire attention à comment le savoir il se produit. Et le champ SIDA, Cécile l'a rappelé tout à l'heure, c'est un champ qui s'est construit aussi dans un rapport de pouvoir et de force entre le savoir et le savoir au départ biomédical, le savoir des médecins et le savoir des malades, au départ des malades qui se sont revendiqués comme étant des patients experts, comme des personnes qui avaient une connaissance de leur maladie parce qu'ils étaient en train de la subir, qu'ils voyaient les effets secondaires des traitements, qu'ils voyaient la manière dont ils étaient discriminés et qu'en fait ils avaient un savoir qui était situé. Et en fait cette expérience-là, elle est très forte dans le champ SIDA, et à mon sens, le champ SIDA a aussi beaucoup de choses à apporter dans le contexte actuel, et ça sera peut-être les dernières questions que tu vas poser, je pense, autour du contexte politique, autour de l'ignorance des approches inductives. Oh là là, mais je ne sais pas pourquoi je le sais déjà. Mais juste pour finir sur cette question de l'extractivisme, il y a une vigilance à faire attention. Enfin, une vigilance à faire attention. Oh mon Dieu, on est fatigué, c'est le soir, c'est mardi, le nouvel an était récent. Il faut faire attention à la manière dont il y a des formes d'appropriation par la recherche académique des savoirs et des connaissances qui vont être développées au sein des communautés marginalisées. Et nous, c'est des choses qu'on essaye de prendre en charge collectivement avec les gens, de se dire, OK, c'est quoi les contre-dons qu'on peut vous apporter ? C'est quoi là, par exemple, nous, on sait écrire. On est des chercheurs, on sait écrire, on écrit des pages. On peut peut-être vous aider là quand vous êtes dans des assos et que vous avez des demandes de financement à écrire. en fait, nous, on peut soit relire les textes, soit vous partager nos codes sur Cairn pour que vous ayez accès en fait à toutes ces biblios que nous on cite, mais que auxquelles vous n'avez pas accès. Mais en fait, du coup, de faire attention aux conditions matérielles dans lesquelles on est. Et de, c'était une camarade qui est une chercheuse transcommunautaire qui disait, il faut faire croquer. Il faut partager, en fait, les savoirs qu'on a, et les savoirs et juste les outils auxquels on a accès en tant que chercheur, même si on est chercheur précaire. En fait, on a accès à Cairn, on sait faire une biblio sur Zotero. Enfin, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et on peut mettre ça au service, en fait, des personnes avec lesquelles on travaille, en fait, pour justement faire attention à ces dons contre dons. Voilà pour le troisième point.
Léo, et surtout merci d'être revenu sur ce qu'on n'a pas évoqué en introduction, le VIH-SIDA. Dernier temps de questions, et après je donnerai la parole à la salle, plutôt sur les critiques des sciences sociales. Vous évoquez les procès des sciences sociales, un manque de scientificité et les critiques du wokisme. Pensez-vous qu'il y a une ignorance de la part des critiques vis-à-vis des approches inductives et ethnographiques ? D'où l'ouvrage, finalement, qui pourrait éclairer ces aspects-là. Et enfin, une dernière question, quels sont les chapitres, selon vous, qui répondent le mieux, je dirais, aux nouveaux enjeux éthiques et d'engagement que vous soulevez ?
Du coup, la question sur laquelle j'avais commencé à manger, parce que je l'aime bien. la réponse, c'est oui, en fait. Enfin, la question des approches inductives, juste, elles sont extrêmement méconnues. Et sur cette question de l'ignorance, en fait, l'ignorance, c'est un pouvoir, en fait, de revendiquer une ignorance des sciences sociales et de ses méthodes. C'est des instruments de domination qui sont très forts. Enfin, là, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Bon, désolé, petit aparté, mais je travaille sur l'extrême droite et le VIH en ce moment, sur la manière dont on politise le VIH à l'extrême droite et sur comment on résiste à l'extrême droite depuis le VIH. Et là, je suis en train de lire un livre écrit par des chercheurs du Front National, enfin, des docteur du Front National dans les années 80 sur le sida. C'est un enfer à lire. Et ils parlent beaucoup de bon sens. Ils parlent vraiment, ils disent, voilà, c'est le bon sens de dire qu'en en Afrique, on copule à va-et-vient. Enfin, en fait, ils sortent des dingueries racistes, homophobes, mais c'est des dingueries, mais ils reviennent toujours sur cette question du bon sens. Et moi, ça m'a frappé en le disant, parce que ça m'a fait penser à Gérard Darmanin, qui parlait de ce bon sens, de dire, j'ai bien conscience des enquêtes de victimologie, c'est très bien, mais moi, je ferais toujours plus confiance au boucher de Tourcoing sur le fait qu'il y a une augmentation de la délinquance, parce que c'est le bon sens. Et en fait, sur cette question du bon sens, les sciences sociales, elles sont là pour répondre au bon sens, précisément, pour dire c'est un peu plus compliqué que ça. Et franchement, on galère vraiment en ce moment. Enfin, le rapport de force, il est très nettement défavorable, on va se le dire. Et sur cette question des régimes d'écriture, parce qu'on n'y est pas trop revenu, mais c'est aussi un bras de fer depuis les sciences sociales et depuis l'ethnographie par rapport là aux sciences biomédicales et à la santé publique et sur les régimes d'écriture. Et en fait, moi j'aime bien citer un collègue qui est un historien moderniste qui s'appelle Jérémy Foa, c'est celui d'historien en ce moment qui vend le plus de livres en France après Éric Zemmour, mais c'est pas des historiens, mais Éric Zemmour, De Villiers et Laurent Deutsch sont les gens qui vendent le plus de livres sur l'histoire en France. Et lui, c'est l'historien qui est vraiment historien, qui vend après le plus de livres. Et lui, il disait en interview, il disait, en fait, nous, il y a une nécessité éthique, politique, à écrire mieux les sciences sociales. Enfin, c'est-à-dire que il faut qu'on se rende lisible. Et en fait, la question du jargon, c'est bien dans nos articles entre nous, mais qu'en fait, quand on se réclame de parler à des publics autres, lui, il y a des questions de dramaturgie, de comment on prend soin d'accompagner le lecteur, comment lui, en tant qu'historien, il va se mettre en scène dans les archives, à galérer dans ses cartons de l'écriture du XVIe siècle et tout. Et en fait, c'est des manières en fait, qui vont happer et qui vont faire qu'on a plus envie de les lire. Et le gars, il vend des livres, donc c'est que ça marche. Enfin, il dit pas juste ça comme ça. Et je pense que nous, enfin en fait, oui, tous, on pense qu'il y a une nécessité à écrire autrement des sciences sociales aujourd'hui et que enfin, juste le rapport de force, il est chamé et que du coup, il faut un peu se sortir les doigts, mais il faut vraiment écrire autrement. Voilà, désolé, j'en ai fini cette question. C'est toi qui réponds là.
Poser cette question, mais c'est fait exprès.
Oui, pour prolonger là-dessus, donc de manière un peu plus appliquée peut-être au VIH-SIDA, c'est vrai que, et à l'ouvrage, en fait, ce qu'on essaye de défendre, c'est plutôt l'éthique au-delà de la règle et là où se niche l'éthique en fait aux différents moments de l'enquête et pas simplement au moment de valider un pseudo-protocole et comment l'éthique se niche dans les interrelations, dans les différentes positions qu'on occupe, etc. Avec l'exemple donc que je citais tout à l'heure de Cécile, par exemple, hein, qui va au-delà de la règle pour s'assurer de ne pas impacter les personnes. Et en fait, ces questions nous semblent essentielles des approches ethnographiques, puisque c'est aussi avoir une forme d'humilité. Il y a toujours cette question-là quand on commence à déplier un peu qui on est, comment ça a pu impacter nos terrains, d'être accusé ou en tout cas d'avoir des formes de dérive narcissique, un peu du blabla, alors qu'en fait, ça nous semble au contraire être une forme d'humilité, puisque on explique d'où l'on parle et ce qu'on a pu recueillir, comprendre, etc., depuis notre position, qu'on n'aurait pas pu recueillir et comprendre depuis une autre position. Et en même temps, on pointe ce que notre position nous empêche de voir, donc les cécités dont parlait Léo tout à l'heure. Tout ça, ça semble faire résonance aussi aux collaborations nécessaires qu'on doit avoir dans le champ du VIH-SIDA avec les collègues en santé publique et dans d'autres disciplines, virologie, etc., pour en fait travailler à ces politiques de santé publique, mais plutôt que de travailler dans une recherche appliquée, enfin, c'est important aussi d'accompagner dans une recherche appliquée sur comment atteindre ces fameux 3,90, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer comment ce qu'on met en place à l'heure actuelle ne permet pas d'atteindre les 3,90. Et donc ça, c'est toujours le positionnement qui est difficile à tenir en fait, auprès des organismes financeurs qui sont pris dans un agenda, une réalité en fait politique qui les anime. Et ce livre, à mon sens, indirectement contribue à pointer l'apport que peuvent avoir les sciences sociales à ces politiques-là. Et pour finir, c'est tous ces inconforts et toutes ces réflexions qu'on peut avoir au fil de l'enquête qui sont autant de données en fait dont on doit se saisir et que l'approche un peu déductive, hypothético-déductive, écrase un petit peu quoi.